le 6-9, Marion Lourd, Ali Badou, sur France Inter.
Et notre invitée est la femme de l'année dans le cinéma français, réalisatrice du film Anatomie d'une chute. Elle a décroché la Palme d'Or à Cannes, 6 Césars, dont meilleur film et meilleure réalisation, un BAFTA au Royaume-Uni, et j'en passe. Et dernièrement, aux États-Unis, l'Oscar de meilleur scénario. Bonjour Justine Triet.
Bonjour.
Bonjour et félicitations.
Merci.
Vous êtes rentrée il y a peu des États-Unis où il y a eu beaucoup d'émotions, de pression et donc forcément de fatigue aussi. Donc on vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous disiez que ce qui vous faisait peur dans les Oscars, c'était l'après. Alors ça y est, vous y êtes. Vous vous sentez comment ?
L'après est très frais. Donc là, j'ai pas vraiment eu le temps de. Là, je suis. Mais non, oui, ça va être effectivement de reprendre mon métier parce que ça fait un moment que je fais plus mon métier. Mais de me retrouver dans le vide, dans la nouvelle page blanche. Mais bon, ça va, je suis encore galvanisée par le parce que ce qui s'est passé. Ouais.
Est-ce qu'on arrive déjà à se projeter dans l'après ? On se demande si vous aviez déjà écrit votre prochain film, par exemple. Est-ce que vous avez déjà préparé Anatomie d'une rechute ou Anatomie d'un rebond ? Je ne sais pas, mais ça doit être extrêmement difficile. Ça fait un an que vous vivez avec ce film.
Ouais.
Partout dans le monde.
Mais c'est vrai que c'est une expérience très très étrange, qui est hyper joyeuse, mais en même temps très étrange, où on est. Ouais, je suis devenue experte pour parler de mon film, mais c'est pas vraiment mon métier. Donc c'est vrai que j'ai très très hâte de retrouver quand même le fait de travailler sur un nouveau projet. Franchement, rien. J'ai deux projets que j'avais avant tout ce délire et que je vais reprendre. Et après, j'ai lu peut-être 50 scénarios qu'on m'a donné à Hollywood.
Ouais.
Donc voilà, et c'est ça le truc qui s'est passé, c'est que j'ai fait la campagne plus la lecture parce qu'on m'envoyait constamment des.
Parce que c'est une campagne. Arriver aux Oscars, on n'y arrive pas comme ça. C'est une vraie campagne électorale. Vous êtes devenue femme politique. Racontez-nous comment ça s'est passé d'ailleurs.
Mais c'est vrai que ça s'apparente un peu à de la politique parce qu'ils m'ont appelé, je pense. On a eu un premier zoom avec les Américains, avec donc le distributeur américain Neon, au mois de juillet, au mois d'août. Et ils m'ont dit, voilà, est-ce que t'es prête à affronter le truc qui t'attend? Et moi, j'étais très naïve. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça allait être. C'est-à-dire qu'effectivement, il a fallu que soit je m'installais là-bas, soit je faisais plein d'allers-retours, ce qui a été le cas. Enfin, j'ai choisi de faire plein d'allers-retours parce que j'ai une famille ici. Et en fait, c'est vraiment, voilà, c'est à la fois faire énormément de projections, donc venir à la fin des projections et parler du film, mais c'est aussi rencontrer des votants. Ils organisent toutes sortes de différentes choses. Ils sont extrêmement créatifs dans la manière dont ils peuvent nous faire rencontrer les votants.
Oui.
C'est fou. Et puis après, il y a un autre travail qui consiste à rencontrer des acteurs, des réalisateurs, des scénaristes. Ça, c'était la partie que moi j'ai préférée parce que j'ai rencontré des gens que j'admire, quoi. Donc ça, c'était toute la journée. Est-ce que tu veux rencontrer à telle heure Meryl Streep, Ari Aster, Emma Stone, machin. Donc du coup, c'était assez rigolo. Mais voilà, c'était du travail. C'était pas du tout. C'est pas du tout, voilà, arriver au moment des Oscars et juste attendre de voir si les gens avaient voté pour toi, quoi.
Et ça aboutit à quoi, ces rencontres? C'est pour des futurs projets? C'est quoi?
Oui. Alors après, c'est informel. Il y a des acteurs qui m'ont proposé des films. Disons qu'eux, ils sont très concrets. C'est vraiment une industrie. C'est très, très vite. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire ici aux États-Unis, quoi? Est-ce que tu veux travailler avec nous? Et puis après, c'est quand j'ai rencontré, par exemple, Ari Aster, qui est pour moi un des plus grands réalisateurs vivants. C'était très touchant parce que c'est un mec qui a plein de doutes, qui parle juste de sa vie, qui est complètement. Voilà. Et Emma Stone, c'était beaucoup plus drôle. On s'est vraiment marré pendant une heure. Voilà. Après, j'ai pas travaillé avec tout Hollywood. Ça n'a pas de sens. Donc, mais c'était quelque chose dont j'avais pas rêvé, mais qui était extrêmement intéressant à vivre aujourd'hui. Voilà. Et de pouvoir se rendre compte que ce film qui est un film indépendant, quand même, Anatomie d'une chute, puisse résonner à cet endroit-là et toucher des gens qui font quand même des films à 200 millions, parce que ça existe. Hein. Scorsese, c'est 200 millions le budget de son film.
Christopher Nolan, c'est encore plus.
Voilà. Mais donc, ça, c'est intéressant. Ça raconte aussi quelque chose du désir des Américains aussi, c'est-à-dire que par rapport à notre cinéma et de la façon dont c'est quand même assez joyeux de pouvoir échanger avec des manières de faire des films qui sont totalement et radicalement différentes.
Mais vous racontez justement, vous revenez des États-Unis, ouais. Vous allez partir en Chine. Qu'est-ce qui est universel dans ce film qui raconte un couple dans un chalet à la montagne? Est-ce que c'est par exemple la question, pour ceux qui ont une famille, du partage du temps, de la liberté, des compromis qu'on fait ou qu'on fait pas?
Oui, je crois que c'est pas le côté de... Oui, il y a le thriller, mais je crois pas que ce soit la chose qui ait vraiment le plus marqué les gens. Je pense que c'est vraiment le couple, l'homme, la femme, le rapport entre l'homme et la femme. Je pense qu'aujourd'hui, on est tellement dans ces questions-là. On l'a pas tant théorisé que ça avec Arthur quand on écrivait le film. Arthur Harari, pardon.
Votre compagnon qui travaille avec vous sur le scénario.
Voilà, notamment. Mais je me rends compte que, en fait, ce film a été quand même écrit après Me Too. Il est complètement imbibés du post-MeToo et qu'en fait, c'est des questions qui concernent tout le monde. Moi, je me suis rendu compte quand le film est sorti, même des gens de mon milieu, donc voilà, qui me disaient, mais en fait, moi, je me rends compte que ça fait tellement résonner dans ma vie, un vrai déséquilibre entre moi et mon mari ou entre moi et ma... Voilà, c'est pas forcément, d'ailleurs, couple hétérosexuel. Les gens se sont totalement identifiés à ce couple et à cette difficulté de vivre ensemble et d'être dans cette forme de parité. Après, le film n'est pas une théorie là-dessus. Hein,
mais non, parce qu'il y a le procès, parce qu'il y a cette question qu'on vous a posée peut-être partout dans le monde. Est-ce que Sandra est coupable ? On a vu, oui, par exemple, que les Français pensent qu'elle est innocente, que les Américains pensent qu'elle est coupable. Chaque pays a sa lecture différente en fonction de sa culture.
Ouais.
Est-ce que vous-même, vous savez si elle est coupable ?
Moi, je sais, oui.
Ouais.
Et alors ?
Bah, j'ai dit, je donnerai la réponse dans 10 ans.
Oui.
Ça va être long.
Oui, ça raconte quelque chose, effectivement, aussi de la culture, des gens, etc. C'est très surprenant, ça m'a beaucoup surpris qu'en France, effectivement, tout le monde la croit innocente et aux États-Unis, tout le monde la croit coupable. Oui, en Espagne, j'ai eu aussi beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, journalistes, qui m'ont dit, mais quand même, cette femme est très détestable. Donc, ouais. Non, mais c'est rigolo, ça raconte
mais
quelque chose.
Mais oui, ça chose, dit quelque chose de la culture, ouais, ouais, de chaque pays.
Mais parce que je pense qu'effectivement, Sandra, dans la façon dont elle a incarné, Sandra est très féministe, une femme qui... C'est quelqu'un qui est tellement décomplexé dans sa façon de ne pas demander ce qu'elle veut, mais vraiment de l'imposer, d'une certaine façon, oui, que ça a fait réagir les gens. Je pense qu'il y a des gens qui se sont sentis choqués, d'autres qui se sont dit « Ah oui, mais finalement, moi, j'ai pas réussi à vivre ça. Pourquoi est-ce que j'ai pas demandé ça ?» Moi, je sais qu'il y a des gens de la génération un peu d'au-dessus de ma mère qui m'ont dit « Mais moi, ça m'a fait complètement exploser en sanglots parce que je me suis dit « Mais en fait, je me rends compte qu'à un moment de ma vie, j'ai vécu ça et en fait, je n'ai pas eu la force de dire ce que dit Sandra dans la scène de la dispute. » Donc voilà, donc je pense que ça a résonné à un endroit très intime des gens. Et ça, on peut pas le prévoir.
Vous dites que c'est un film post-MeToo. Alors, c'est vrai qu'il y a une parole qui se libère en ce moment dans le cinéma français. Mm-hmm. Est-ce que la place des femmes, elle évolue vraiment? Vous avez entendu le discours de Judith Godrèche qui a porté plainte contre Jacques Doyon pour viol. Elle appelle à dire tout haut la réalité des violences sexistes et sexuelles. Qu'est-ce qu'il faut dire tout haut, d'après vous?
Bah, oui, je pense que Judith Godrèche, après Adèle Haenel, après plein d'autres femmes aussi hein, qui ont pris la parole, je pense, avant elle, voilà, disent des choses essentielles, nécessaires. Et je pense que cette libération de la parole qu'a apporté MeToo est nécessaire. Et nous, on a mis plus de temps à arriver en France. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on prend un peu plus de temps. Elle arrive maintenant, on vit vraiment le MeToo aujourd'hui.
Vous avez le sentiment que ça change, par exemple, le regard qui est porté sur vous, réalisatrice?
Non, ça change lentement. C'est quand même très, très lent. Moi, j'étais quand même la seule réalisatrice en face de tous les hommes là, nommés aux Oscars. C'est lent, c'est très lent, mais ça bouge, ça commence à bouger. Et effectivement, cette libération est nécessaire. Attention, hein, ça existe partout. L'inceste, le viol et tout, malheureusement, concerne les couches sociales aisées, les pauvres, les riches, les classes moyennes. Il faut le redire quand même. Hein. Donc voilà, cette libération est nécessaire partout. Et oui, effectivement, enfin en tout cas, moi, c'est des questions qui se sont posées, qui se posent. Je continue à faire attention sur mon plateau. C'est aussi un milieu, le cinéma, où la hiérarchie est très forte. Donc en tant qu'effectivement chef de bateau, enfin chef de voilà, on est obligé de faire attention à voilà, à ceux qui n'oseraient pas parler, à voilà.
Il y a une scène qui a vraiment marqué la cérémonie des Oscars et qui a été énormément commentée sur les réseaux, c'est on vous voit avec Christopher Nolan donc qui a fait Oppenheimer, qui est un immense auteur hollywoodien de blockbuster, de oui, Batman et autres, et il se penche vers vous. Et il vous dit quelque chose. Et alors donc, il y avait un jeu sur Internet qui était de savoir ce qu'il vous avait dit. Et comme lui, il a surtout fait des films avec des personnages masculins extrêmement forts, c'est comme il vous demandait comment créer des personnages de femmes qui ont du caractère. En tout cas, c'est l'une des réponses qui était drôle. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit, Christopher Nolan?
Non, il ne m'a pas dit tout ça. Alors, je lui disais, je vais décevoir les gens. J'aurais adoré qu'il me demande ça. C'est vrai que les personnages féminins chez Nolan, c'est pas forcément... Bah non, mais j'exagère. Dans son dernier film, oui, c'est les femmes sont un peu en retrait. Mais non, il m'a demandé simplement. Il m'a juste dit, bravo, t'es contente, ça se passe bien. Mais c'est vrai que non, la blague, c'est que Christopher Nolan, on s'est suivis, on s'était vus juste avant BAFTA, on n'arrête pas de se voir. En fait, il faut savoir que la campagne des Oscars, c'est qu'on n'arrête pas, c'est comme une grande caravane, on se suit tous en fait pendant un an. Je suis désolée, il n'y a pas eu de grande discussion sur les personnages féminins et masculins avec Nolan, je vais vous décevoir.
C'est la vie.
Alors je le disais, hein, en France, la carrière du film est impressionnante, la Palme d'Or, 6 Césars, pour vos récompenses américaines et pour les Oscars, le président de la République vous a félicité, mais pas... Après votre victoire à Cannes, sans doute à cause de votre discours de l'époque, vous aviez dénoncé le pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé d'Emmanuel Macron, la protestation sur la réforme des retraites niée, une volonté de casser l'exception culturelle française. Vous êtes toujours sur cette même position ?
Bien sûr. Enfin, en tout cas, non. Mais ce que j'ai voulu dire, et je pense que mon discours a été tellement déformé après, il faut quand même le redire. Hein, c'est-à-dire que, moi, j'essayais de dire surtout, attention, faisons attention à protéger cette exception culturelle qu'on nous envie dans le monde entier. Ce final cut qu'on a, en fait, les Français, il faut savoir que partout dans le monde, quand on voyage, les gens nous disent, mais comment vous faites?
Ça voilà. Consiste en quoi? Expliquez-nous.
C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a quand même une autonomie, en fait, des auteurs en France. Déjà, il y a une historique, c'est-à-dire que les autres, il y a beaucoup, beaucoup de gens en France qui écrivent leurs films, ce qui n'est pas le cas de d'autres pays dans le monde. C'est quelque chose qu'on nous envie parce que il y a plein de réalisateurs dans le monde qui disent mais voilà, moi j'ai pas le choix, j'ai dû couper à tel endroit, etc. Moi, mon discours, il arrive à un moment précis. C'est-à-dire qu'il y a eu le rapport Boutonnat quelques années avant, qui est un rapport très précis qui dit voilà, il faut être dans une rentabilité plus grande des films, il faut mettre les films qui seraient des films d'auteurs un peu plus fragiles au placard et qu'à un moment donné, moi je vois, j'ai commencé, il faut le savoir, avec une production beaucoup plus très plus légère, avec des budgets très très petits. Si j'avais pas eu ce parcours, je ne sais pas si je serais là aujourd'hui. Donc moi, en arrivant à cet endroit-là d'exposition extrême, je profite de cet endroit-là pour dire attention, faisons attention à cet endroit-là, je suis là, c'est génial, mais à côté de moi, les gens qui arrivent, la jeunesse qui arrive n'est pas aussi protégée que je ne l'étais quand j'ai commencé. Donc c'est évidemment ça, c'est la suppression de la redevance audiovisuelle qui change évidemment, qui nous donne un peu moins d'autonomie. Donc c'est des choses très simples, je suis pas en train de dire. Alors effectivement, comme je suis une timide, quand j'arrive à cet endroit-là, je le fais de manière un peu musclée, mais en réalité, ce qui m'a surpris, effectivement, j'étais quand même extrêmement étonnée de la violence que j'ai subie après, du détournement de ce que j'avais dit. C'est-à-dire que, je veux dire, j'ai jamais craché dans la soupe. Contrairement à ça, j'ai justement dit ce modèle-là, protégeons-le. Moi, aujourd'hui, monter un film, c'est évidemment plus facile pour moi, donc ça va pour moi. Je veux dire, j'ai 45 ans, j'ai fait 4 films, je vais pouvoir, évidemment, avoir une grande liberté pour mon prochain. Je pense juste à cette jeunesse. J'ai 2 enfants, dont une fille qui a presque 14 ans, qui, voilà, je vois ce monde-là qui arrive et je me dis, je suis très curieuse de savoir ce qu'ils vont faire de ce monde. Et je me dis, comment est-ce qu'ils arrivent? Et je suis désolée, je vois comment, et ça c'est le monde, hein, c'est pas la France, comment, les plateformes, ce que ça fabrique. Je suis pas anti-plateforme, je suis pas anti-série, anti-plateforme. Je pense que tout ça doit exister, mais je dis justement parce que ça existe, il faut protéger d'autant plus. Et je pense qu'on a besoin d'une vision, en fait, sur la culture.
Et on l'a pas?
C'est pas qu'une question d'argent, en fait, c'est une question de vision. Je pense qu'elle manque cruellement, et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une espèce de crise énorme. C'est pas que des solutions financière, c'est vraiment une vision globale, je pense.
Mais quelle histoire!
Ouais, on a parlé de beaucoup de sujets en même temps, là.
Oui. Mais quelle histoire, malgré tout.
Ouais, Justine Trier, réalisatrice du film Anatomie d'une chute, récemment oscarisée, donc, mais aussi césarisée, palmée. Merci beaucoup de nous avoir répondu sur France Inter ce matin.
Merci et bravo encore.
Bravo.
Merci.